Maintenant, notre étude biblique. Est-ce que notre frère Éric Patin voudrait nous conduire dans la prière? Si c'est bien l'habitude du Seigneur d'envoyer ses témoins deux par deux, celui qui fait la paire avec Jérémie, que nous avons étudié les mois derniers, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, un peu plus jeune que Jérémie, 20-25 ans sans doute de différence d'âge entre eux, a été comme Jérémie, le prophète de l'agonie du royaume de Juda, de la période pendant laquelle se sont accomplies les menaces et les condamnations que les prophètes avaient déjà depuis longtemps dans l'histoire d'Israël prononcées au nom de Dieu. Seulement Jérémie a été ce témoin en Palestine, en terre de Juda, à Jérusalem, et Ézéchiel a été le témoin du même message parmi les déportés en Babylonie. Son nom d'abord, peut-être ferais-je bien de vous en indiquer la forme exacte. On l'écrit de diverses façons. Le plus souvent en français, on l'écrit comme ça, donc E-Z-E-C-H-I-E-L, mais on trouve parfois aussi dans certaines Bibles l'orthographe avec un K au lieu de le CH, qui doit se prononcer que. Et en fait, ce n'est pas un choix très logique, parce qu'on devrait mettre plutôt la lettre Q en français, car la lettre qui se trouve en hébreu, c'est la lettre qui a donné, dans l'évolution de l'alphabet, le Q français. Donc vous voyez que cette question de transcription n'est pas très facile à régler. Le terme qui est à la racine évoque l'idée de force, et le nom signifie sans doute que l'Éternel fortifie. Il en a bien eu besoin, ce pauvre Ézéchiel, de la force du Seigneur pour accomplir son ministère. Je dis qu'il s'est trouvé prophète parmi les exilés, à l'époque la plus sombre de l'histoire du royaume de Juda. Je vous rappelle encore brièvement cette histoire, je vous l'ai racontée dans les séances précédentes, mais il y a peut-être eu quelques absents, donc je vous rappelle très très brièvement ce qu'il en a été. Après plusieurs siècles d'existence du royaume de Juda, vous voyez Jérusalem, la mer Morte, Jérusalem, le royaume de Juda, c'est la Méditerranée. La puissance assyrienne qui dominait le Moyen-Orient a été remplacée par celle des Babyloniens. Les Babyloniens dans la grande plaine de la Mésopotamie avec le Tigre et l'Euphrate débouchant sur le golfe Persique. Ici vous avez toute l'Arabie, le grand désert d'Arabie. C'est la puissance des Babyloniens, encore appelés Chaldéens, qui est devenue dominante à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les dates en 600 et quelques. Comme c'est avant Jésus-Christ, vous voyez, plus le chiffre est élevé, plus on est loin dans le passé. Et donc quand on recule dans le passé, les chiffres augmentent. Alors les dates du 7e siècle sont les dates en 600 et quelques, jusqu'en l'an 600. Alors pendant donc cette époque, les Babyloniens ont pris l'ascendant, sont devenus les maîtres du Moyen-Orient et ont fini par envahir le territoire de Juda. Et à la suite des erreurs et des désobéissances politiques des rois de Juda qui n'ont pas voulu écouter les prophètes, l'armée babylonienne a d'abord soumis le roi, mais à contre-cœur, il s'est soumis seulement, le roi Joachim en 605, avant Jésus-Christ, et a emmené un certain nombre d'otages, des jeunes gens de bonne famille, des adolescents sans défaut, de la caste dirigeante de Jérusalem, pour qu'ils soient des otages, et en même temps pour qu'ils deviennent de hauts fonctionnaires du royaume, de l'empire babylonien. C'est parmi eux que s'est trouvé Daniel, dont nous parlerons une prochaine fois. Et puis Joachim, une fois les Babyloniens partis, s'est révolté, a refusé de payer le tribut qu'il avait promis de payer, et du coup l'armée babylonienne est revenue, a monté un franc siège autour de Jérusalem, qui est tombé en 597. Donc cette fois, c'est le 6e siècle, c'est le début du 6e siècle avant Jésus-Christ. En 597, l'armée babylonienne a pris la ville. Mais le chef des Babyloniens, Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor, comme on peut dire les deux choses, les deux façons en français, Nebuchadnezzar, donc, n'était pas si mauvais prince. Il a emmené captive une bonne partie de la population, essentiellement les gens les plus qualifiés. C'est l'élite sociale qu'il a emmené captive. Mais il a encore installé sur le trône, il n'a pas détruit la ville complètement, il a encore installé sur le trône un judéen, un membre de la famille royale, dont il a changé le nom pour qu'il s'appelle Sédécias. Sidkiyahu en hébreu, c'est-à-dire justice de l'éternel. Et puis ce Sédécias a eu, sous la pression de son entourage, la détestable idée de se révolter à son tour, malgré les avertissements de Jérémie contre le pouvoir babylonien. Et alors, 10 ans plus tard, en 587, l'armée babylonienne est revenue en force, et cette fois ça a été terrible. Elle a pris la ville, elle a complètement ravagé le territoire, le temple de l'Éternel a été détruit entièrement, et une autre partie de la population très importante a été déportée en Babylonie également. Voilà la situation dans laquelle Jérémie, comme nous l'avons vu, et Ézéchiel, comme nous le voyons aujourd'hui, ont exercé leur ministère. Alors Ézéchiel, c'est sans doute le plus étrange de tous les prophètes que nous rencontrons dans les livres bibliques. Il avait quelque chose d'extravagant, en tout cas d'extrême, dans son tempérament, semble-t-il un nerveux, hyper nerveux, très sensible et en même temps très abstrait. Il a une forme de pensée qui ressemble à celle des ingénieurs. Alors c'est un visionnaire, mais il est dans ses visions comme un ingénieur qui dessine des machines inconnues. Puis très très sensible, simultanément. Son style tranche sur celui des autres prophètes. Il a des images un peu bizarres, ou parfois il est conduit à proposer des signes gestuels, des paraboles en acte pour illustrer son message, qui carrément sont à la limite du comique pour nous. Un de ces signes, par exemple, qui nous est rapporté, c'est sur l'ordre de Dieu qui fait tout cela, mais ça correspond à son tempérament. Dieu l'utilise selon son tempérament. Un de ses signes au chapitre 5, c'est de courir après les poils de sa barbe qui volent au vent à grands coups d'épée. Vous pensez ce que ça a pu amuser, mais c'était tragique en même temps comme message. Mais c'était pour frapper davantage. Un style tout à fait à lui. Et la forme de ses prophéties est certainement plus compliqué, un peu décalé par rapport aux habitudes que nous avons dans la lecture des autres prophètes. Bon, les prophètes après lui ont repris, sous son influence peut-être, certains des éléments de la forme que nous trouvons chez Ézéchiel, donc ce n'est pas absolument unique. Mais par rapport aux prophètes que nous avons étudiés jusqu'à maintenant, vraiment la forme du message change. La substance est en plein accord avec ce qu'ont dit les prophètes venus avant lui, et en plein accord avec ce que disait Jérémie de son côté, à la même époque à Jérusalem. Mais la forme est frappante. Et on peut dire que il faut être dans une condition spirituelle juste pour aborder ces textes. Qu'il y a certains textes qui sont dangereux par cette forme-là. Vous avez quelques chapitres où le prophète use d'un langage extrêmement cru pour se référer à la sexualité humaine qui sert de symbole aux relations entre l'homme et Dieu. C'est pas tout à fait pour lire en chair. C'est inspiré de Dieu, c'est utile, il y a de grandes leçons, mais c'est brutal. Je crois qu'Ézéchiel voulait que cela secoue ses auditeurs. Et puis, Il y a les grandes visions du début du livre surtout, qui ont été dans le judaïsme l'occasion de grands dérapages mystiques, de spéculations sur l'au-delà. Et c'était au point que dans la tradition juive, il y a eu, au moins pour une certaine époque, interdiction de lire le livre d'Ézéchiel pour les moins de 30 ans. On voulait que les lecteurs soient suffisamment mûrs et stables avant qu'ils abordent des textes peut-être un petit peu dangereux. Alors là, l'interdiction des rabbins ne vaut plus pour nous, et j'espère que chacun de nous, nous avons dans le Seigneur une maturité suffisante pour lire ces textes comme ils doivent être lus. Mais vous voyez, il est vraiment à part, ce prophète Ézéchiel, qui est un grand prophète. Alors aujourd'hui, je voudrais essentiellement vous parler de lui, de sa vie, de sa personnalité que j'ai commencé à décrire, des grands accents que nous trouvons dans l'ensemble de son discours et de son ministère. La fois prochaine, parce que je pense qu'il nous faudra les deux séances, je ne peux pas être trop optimiste, j'aurais aimé tout faire tenir aujourd'hui, mais je crois que ça ne marchera pas. Donc la fois prochaine, je pense prendre quelques-unes des prophéties, soit les plus importantes, soit les plus difficiles à interpréter. Et puis, je peux essayer de répondre à certaines questions sur des passages que je ne toucherai pas. Si vous en avez, vous pouvez les préparer d'ici la fois prochaine, Dieu voulant donc au mois de février. Aujourd'hui, donc, nous nous concentrons sur la personne du prophète. Alors, repère biographique, d'abord. Ézéchiel n'est pas né en Babylonie. Il est né, sans doute, à Jérusalem ou aux abords de Jérusalem. D'après des recoupements que je vais expliquer, il a dû naître en 622. Et c'est une année pas comme les autres dans l'histoire de ce 7e siècle d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé en 622? Parce que je vous l'ai dit la dernière fois. Est-ce que quelqu'un se rappelle? C'est l'année de la réforme. C'est l'année au cours de laquelle le roi Josias, qui a été le dernier roi pieux et fidèle à Jérusalem, ayant tout à coup découvert, parce qu'on avait retrouvé un livre de la loi oublié, que le peuple n'obéissait pas au commandement de l'Éternel, avait décidé un grand mouvement de retour à Dieu, de suppression des multiples autels sur lesquels on offrait des sacrifices, parfois à l'Éternel, mais parfois à d'autres qu'à l'Éternel dans tout le pays. Le roi Josias avait lancé une grande réforme, un grand réveil de la foi, dans un sens de purification et de sanctification du peuple. Alors, on pourrait dire que Ézéchiel, s'il est bien né en 622, comme on pense, a été comme l'enfant de la réforme. L'enfant de ce grand mouvement qui a été lancé au moment où il venait au monde. Mais ensuite, les choses se sont gâtées. Je vous rappelle qu'en 609, donc le roi Josias, le bon roi Josias est mort, que son fils Joachim, qui lui a succédé, était un gredin, qu'il y a eu donc ces victoires des Babyloniens, en 605, leur premier passage à Jérusalem, et puis la révolte ensuite de Joachim. Et le jeune Ézéchiel a été du convoi de 597, faisant partie sans doute de l'élite, de par sa famille. Il a été l'un de ces milliers de déportés qui ont été obligés de quitter leur pays en 597 pour se retrouver en Babylonie, dans la grande plaine de l'Euphrate. Il avait environ donc 25 ans, 597. Il s'est établi là, au milieu des exilés. Les exilés ne se trouvaient pas derrière des barbelés. Il faut quand même pas imaginer les choses comme lorsqu'on parle des camps de déportés, de la déportation de la Deuxième Guerre mondiale. Ces populations, les Babyloniens les laissaient ensuite s'établir dans le pays, avec leurs villages, cultivaient leurs champs. Ils jouissaient d'une certaine autonomie. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans leur pays d'origine. Mais ils n'étaient pas dans une situation désespérée quand même. c'était une situation affligeante, mais quand même, il était possible de vivre dans cette terre de Babylonie. Ils avaient sans doute retrouvé, d'ailleurs, en Babylonie, les descendants des Israélites du Nord, qui avaient été déportés plus d'un siècle auparavant. Certains d'entre eux, en tout cas plus d'un siècle, d'autres à peu près un siècle auparavant, dans ces mêmes régions. À l'époque où les Assyriens donc, contrôlaient la région, ils avaient aussi, eux, fait des déportations. Pas de Juda, mais du royaume des 10 tribus, dont la capitale était Samarie, au nord de Juda. Et vous aviez eu donc des Israélites déportés en divers coins du royaume d'Assyrie, mais certains en Babylonie. Alors ils y avaient fait souche, et sans doute, les Judéens, quand ils se sont trouvés eux aussi déportés en Babylonie, ont-ils rejoint leur lointain cousin qui était dans ce pays depuis un certain temps. En 597, donc, Ézéchiel se retrouve parmi ses exilés, en particulier dans une bourgade qu'ils avaient peut-être créée ou trouvée, qui s'appelait Tel Aviv. C'est pas la Tel Aviv d'aujourd'hui, qui est un port sur la Méditerranée. Ça veut dire la colline des épis, Tel Aviv. La colline des épis. Il se trouvait donc dans cette région de Babylonie. Et puis en 592, donc 5 ans après, le jeune Ézéchiel, enfin, commençait à quitter la jeunesse, puisque ça le faisait juste 30 ans, reçoit une vision tout à fait extraordinaire, au bord d'un fleuve canalisé, d'un canal. Cette plaine mésopotamienne est sillonnée de canaux. C'est le plus vieux système d'irrigation du monde. Et il se trouve auprès du Nahr Kabarou, du fleuve Kébar. Et là, tout à coup, le ciel s'ouvre. Il a une vision tout à fait extraordinaire. Et lié à cette vision, il entend une vocation divine qui lui est adressée, qui l'établit comme prophète. Alors il nous est dit, donc c'était en 592, c'est daté au verset 2 du livre de la cinquième année de la captivité du roi Jéhoiakim, c'était le roi emmené captif en 597, dans ce convoi de déportés, le jeune roi qui venait de monter sur le trône pendant le siège et qui avait été emmené captif. Donc on est sûr que c'est 592. Donc c'est en 592 que ça a eu lieu, mais il nous est dit aussi, au premier verset, que c'est la 30e année. La 30e année de quoi? Ça, c'est pas précisé. Alors, la meilleure hypothèse, celle à laquelle je me rallie, en tout cas, la meilleure hypothèse à mes yeux, donc, mais il y a des articles sérieux qui l'ont défendu, c'est que c'est la 30e année de la vie du prophète. S'il n'y a pas d'autre point de repère, bon, il est logique de penser que c'est la 30e année de sa vie. Surtout que déjà dans la Genèse, il y a des dates qui sont données de la vie de Noé, comme ça, à partir de sa naissance. Donc il y avait un précédent pour une datation prenant son point de départ dans la naissance du personnage dont il est question. Donc ça veut dire qu'il était né en 622, vous voyez, c'est à partir de là qu'on peut établir sa date de naissance en 622, comme j'ai dit tout à l'heure. 622, année de la réforme du roi Josias, 30 ans plus tard, il est appelé au ministère. Écho peut-être de ce grand mouvement de réforme, mais sans doute aussi allusion à autre chose. Je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais Ézéchiel était de famille sacerdotale. Son père était prêtre et il devait devenir prêtre à son tour et servir dans le temple à Jérusalem. S'il n'y avait pas eu la guerre et la déportation, il serait devenu prêtre dans le temple. Et à quel âge serait-il devenu prêtre? Serait-il entré dans le plein exercice de son ministère sacerdotal? Vous le savez, d'après la loi, c'est à 30 ans. Alors je crois que ce n'est pas par hasard si c'est la 30e année de sa vie qui a été celle de sa vocation. Dieu, en quelque sorte, du moment qu'Ézéchiel ne pouvait pas accomplir le ministère auquel sa naissance et toute son éducation devait le conduire, lui a accordé un autre ministère de compensation, de substitution. Il n'est pas possible, dans ces temps si difficiles, que tu sois prêtre, tu seras prophète. Dieu lui a donné un ministère de prophète au moment même où il aurait dû devenir prêtre. Dans un sens, c'est un peu comme Jérémie, mais avec des circonstances différentes. Je vous rappelle que Jérémie était aussi de famille sacerdotale, mais une famille sacerdotale sous malédiction, qui ne pouvait pas exercer le ministère. Cette famille, donc descendante du grand prêtre Élie, et qui habitait à Anatote. Et Dieu lui avait appelé au ministère prophétique, lui aussi, comme à la place du ministère sacerdotal. Dans le cas d'Ézéchiel, c'est à cause de la destruction du temple, de la fin du royaume, que cette substitution s'opère. Et il me semble qu'il y a une très belle leçon que nous pouvons d'emblée tirer pour nous. Ézéchiel, déporté à 25 ans, a peut-être pensé, mais c'est terrible, je ne vais pas pouvoir servir le Seigneur comme j'étais destiné à le faire. Je suis maintenant déporté. Est-ce que le Seigneur va permettre mon retour en Palestine? Il a peut-être prié pour que Dieu permette qu'il retourne à Jérusalem pour pouvoir servir dans le temple. Et puis Dieu ne l'a pas fait. Le temps passait, c'était la 30e année. Ézéchiel a peut-être été tenté de se décourager et de dire « Dieu ne répond pas ». Et Dieu avait un autre plan. Dieu avait quelque chose d'encore bien meilleur. Si Ézéchiel avait été prêtre, nous aurions peut-être mention de son nom dans une des listes du livre des chroniques sur lesquelles nous sautons si souvent lorsque nous lisons le texte. Et il n'aurait pas fait une œuvre, semble-t-il, très, très prodigieuse dans l'édification du peuple de Dieu. Alors que prophète, il a joué un rôle capital. Le Seigneur avait en vue pour lui bien meilleur encore que le ministère de prêtre, le ministère sacerdotal. Mais pendant tout un temps, Ézéchiel ne l'a pas su. Ézéchiel a dû faire confiance, supporter avec patience cette épreuve. Ce message se lit d'ailleurs à celui que M. Jean-Charles nous a adressé tout à l'heure. Patience et confiance dans le Seigneur. Donc Ézéchiel est appelé à sa 30e année. Vous vous rappelez d'ailleurs que notre Seigneur Jésus aussi est entré dans son ministère alors qu'il avait environ 30 ans. Luc nous dit bien environ, probablement il avait quelques années de plus, mais s'il met 30 ans justement, c'est pour faire ressortir la correspondance avec ce ministère d'Ézéchiel et avec ce ministère des prêtres dans l'Ancien Testament. C'est pour nous dire qu'en Jésus s'accomplissent toutes les figures de l'Ancien Testament. Si vous voulez, tous les fils de l'Ancien Testament se rejoignent, se nouent en la personne de Jésus. Et c'est pour cela qu'il a commencé d'accomplir son ministère aux environs de 30 ans. Alors continuons ce qui concerne la personne d'Ézéchiel. Après cet appel au ministère, il est resté en Babylonie. Il a eu des visions qui lui ont montré ce qui se passait à Jérusalem, des visions extrêmement précises. Il a été transporté par l'Esprit. Et alors certains se sont demandé s'il avait fait le voyage, effectivement. Mais il ne semble pas. C'est en esprit qu'il a été transporté à Jérusalem et qu'il a vu tout ce qui se déroulait là, mais ce n'est pas dans son corps. Il est resté en Babylonie et, semble-t-il, toute sa vie. Il s'est trouvé au milieu des exilés, c'est à ses compatriotes qu'il prêchait, et là, très souvent, on venait le consulter. Un peu comme avec les premiers prophètes, au temps de Samuel, d'Élie, d'Élisée, on venait chez lui. Les anciens de la communauté installée en Babylonie, de cette communauté de juifs déportés, les anciens venaient le consulter, venaient voir quelle était la parole de l'Éternel qu'il avait reçue. Ce n'est pas tout à fait comme à Jérusalem, où c'était la ville même du peuple de Dieu, et où ils allaient sur les places, au temple, pour prêcher. Donc il a exercé son ministère comme ça pendant tout ce temps-là, et semble-t-il assez longtemps, parce qu'il y a un dernier oracle daté dans son livre qui est de 570. Donc il a eu un ministère d'une trentaine d'années. Il a peut-être continué à parler au nom de Dieu au-delà de 570. Il y a des oracles qui ne sont pas datés. Mais le dernier qui a une date, au chapitre 29, il est de 570 avant Jésus-Christ. La vocation d'Ézéchiel, nous l'avons située dans cette chronologie, mais je crois qu'il convient d'y revenir, parce qu'elle est riche d'enseignements pour nous. C'est un passage difficile, je ne vais pas entrer dans le détail de son interprétation, bon, s'il y a le temps pour quelques questions, vous pourrez éventuellement en poser, mais je crois qu'il vaut la peine de noter les caractères particuliers de cette vocation d'Ézéchiel. D'abord, elle est liée, comme je l'ai dit, à une vision céleste, tout à fait extraordinaire, et qui nous est décrite au chapitre premier du livre. Ce chapitre premier est une description du char de l'Éternel. Le char de l'Éternel, dans un environnement qui fait penser à un immense orage, mais un orage assez curieux, comme stylisé. C'est comme un dessin d'ingénieur qui dessine un orage. Ce n'est pas de la peinture romantique. Donc ce char de l'Éternel, il est question de ses roues, et certains disent que les roues représentent en fait les orbites des étoiles, les orbites célestes, parce que le char de l'Éternel, c'est le cosmos tout entier. Il est question de ses roues, c'est plein d'étincelles partout. Il y a aussi des coursiers de ce char, et ils sont appelés dans ce chapitre les animaux. On traduit souvent les vivants, mais bon, c'est le mot habituel pour les bêtes ou les animaux dans l'Ancien Testament. Des animaux qui associent les caractères de quatre êtres vivants connus par la zoologie terrestre, qui ont des éléments du taureau, emblème de la force vitale, de l'aigle, emblème de la liberté seigneuriale en quelque sorte, l'aigle est le roi des airs, du lion, on dit généralement le roi des animaux pour le lion, emblème de l'efficacité guerrière, et puis de l'homme, l'être qui est créé en image de Dieu pour dominer sur la création terrestre. Ces animaux, entre guillemets, le terme peut se traduire de cette façon, donc sont comme les coursiers du char divin. Et ils sont mus par l'esprit, dirigés, mus par l'esprit. Puis ils reçoivent leur nom dans la deuxième vision du char, qui n'est pas au moment de la vocation, mais plus tard, sans doute un peu avant 587, qu'on trouve au chapitre 10. Au chapitre 10, nous avons de nouveau description de ces animaux avec le char divin. Et là, ils reçoivent leur nom. Leur nom, c'est Kérouvim. Un mot hébreu dont on a fait en français chérubin. Chérubin. C'est un mot hébreu. Kérouv, pluriel, Kérouvim. Et ce nom est connu, en fait, dans le monde sémitique ancien. Il semble qu'en Mésopotamie, on appelait caribou, le même mot pratiquement, ces figures, elles aussi composites, avec des éléments de lion, de taureau, d'homme, qu'on trouve sculptés essentiellement à l'abord des temples, comme s'ils étaient les gardiens des temples, des palais de la divinité. Mais c'est une figure composite très, très largement répandue dans le Moyen-Orient ancien. On a retrouvé, les archéologues en ont retrouvé beaucoup de ces figures de caribous, kérouvim. Elles ne sont pas toutes exactement les mêmes, hein, mais c'est toujours une association de traits qui appartiennent à divers êtres vivants. Et ils sont rapprochés du domaine du sacré. Alors à partir de là, je crois que nous pouvons nous orienter quant à l'interprétation. Vous savez certainement que une longue tradition chrétienne, mais ce n'est qu'une tradition, a estimé que les chérubins, c'étaient des anges, une classe supérieure d'anges. Et dans les traités d'angélologie, vous avez les 9 cœurs d'anges qui sont alignés, et puis les chérubins constituent le 2e cœur, c'est presque au sommet. Et puis alors, on est, à partir de la représentation des angelots comme des bébés joufflus, vous voyez, vous savez, qu'on dira d'un bébé, c'est un chérubin. Bon, je trouve que tout ça, c'est très peu biblique. Et les chérubins, quand ils sont décrits, il en est question quelques autres fois dans la Bible, ont cette association de 13 animaux. Et vous voyez, ils sont appelés au premier chapitre animaux, et on les retrouve en fait sous ce même nom d'animaux dans l'Apocalypse de Jean, dans l'Apocalypse du Nouveau Testament, où il nous est dit les êtres vivants, dans nos traductions, les 4 êtres vivants, etc. Et là aussi, on retrouve les 4 éléments, lion, bœuf, taureau, aigle et homme. Mais en fait, en grec, dans l'Apocalypse, il s'agit aussi du mot courant pour les animaux. C'est zoon, dont nous avons fait zoologie en français, c'est zoon, pluriel zoa. Donc on pourrait très rigoureusement traduire les 4 animaux dans l'Apocalypse. Alors ça ne me semble pas nous encourager à y voir des anges. En tout cas, nulle part dans la Bible il n'est dit que ce soit des anges. Ce n'est pas dit. Il me semble plus simple, étant donné qu'il s'agissait de figures symboliques qui étaient sculptées devant les temples en Mésopotamie, d'estimer qu'il s'agit de symboles. Dans les visions, il y a une place pour les symboles. Ce sont des symboles de toutes les excellences de la création, qui sont au service de Dieu, qui sont comme les coursiers de son char. C'est une figure comme concentrée de toutes les ressources de la création à la disposition de Dieu, qui sont donc symboliquement les coursiers de son char. Si vous voulez penser qu'il s'agit d'anges, je n'en ferai pas une maladie, hein. Mais simplement, je dis qu'il me semble plus sobre, étant donné l'ensemble des données bibliques devant nous, d'estimer qu'il s'agit de figures symboliques qui là sont vues en vision, qui était utilisé dans la symbolique des temples païens de l'époque, mais aussi brodé sur certains des voilages du temple, du tabernacle et du temple, par ordre de Dieu. C'était des figures symboliques utilisées dans la décoration. Alors c'est encore une autre question de savoir exactement le rôle des chérubins Kerouvim qui barrent le chemin du paradis, du jardin d'Éden et de l'arbre de vie à la fin de Genèse 3. J'ai essayé d'en parler dans mon livre, alors je n'entre pas dans le débat qui pourrait concerner ce sujet maintenant, mais vous voyez donc comment les choses se présentent. Ézéchiel voit le char de l'Éternel, voit ses coursiers, il voit en quelque sorte tout le cosmos comme à la disposition de Dieu, et tout en haut, il y a le trône sur lequel le Seigneur lui-même est assis, et ce Seigneur avec l'arc-en-ciel, un rappel du symbolisme de l'arc-en-ciel après l'histoire du déluge, tout en haut il y a donc le Seigneur lui-même qui a comme une ressemblance d'homme, nous dit Ézéchiel. Avec une telle vision, il me semble qu'il veut nous souligner d'abord l'infinie supériorité de Dieu. Vous voyez, tout le cosmos est encore que comme son char. Vous voyez, il est là-haut. Et puis c'est indescriptible. Et puis lui-même a une correspondance avec l'être humain. Même s'il est infiniment supérieur, s'il est transcendant, comme on dit en termes techniques, il est cependant comme une ressemblance d'homme. Parce qu'il a fait l'homme pour qu'il lui ressemble, pour qu'il y ait un rapport entre lui souverainement élevé et la créature de poussière qu'est l'homme. Donc dans la vocation d'Ézéchiel, il y a ce premier élément, la vision de la grandeur de Dieu, et nous allons y revenir, de la mobilité de Dieu. Parce qu'il est sur un char avec des roues. Il n'est pas rivés en un seul lieu, soit au ciel, soit sur la terre. Alors ça, c'est un point très important pour tout le message d'Ézéchiel, mais nous y reviendrons dans un instant. Parce qu'ensuite, le deuxième élément dans sa vocation, qui est très intéressant à relever, c'est au chapitre 2, comment Dieu lui dit qu'il va porter sa parole. Il lui présente un livre. Un livre, c'est-à-dire un rouleau, hein, la forme du livre, ce n'était pas encore des feuillets reliés, mais c'était un rouleau. Il lui présente un rouleau et lui dit « mange ». Et Ézéchiel est obligé de s'exécuter. Ce rouleau du livre représente le message que nous avons justement dans le livre d'Ézéchiel. C'est équivalent de ce que nous avons vu dans le cas de Jérémie. À Jérémie, Dieu dit « je mets mes paroles dans ta bouche, tu parleras de ma part ». Mais maintenant, il y a un symbole plus lourd, en quelque sorte, ces paroles sont symbolisées par un livre. Et il s'agit pour le prophète de le manger. Peut-être, c'est au moins une idée tout à fait envisageable, ce symbole du livre est-il choisi parce que le prophète est loin de chez lui. Il est en exil en Babylonie et son message va devoir être inscrit dans un livre pour qu'il puisse se diffuser parmi tous les Israélites. Avec la dispersion qu'implique l'exil, il ne suffit plus de prêcher oralement sur la place publique à Jérusalem. Il faut le moyen du livre pour que se répande la parole. Peut-être que c'est pour ça que c'est un livre qui symbolise le message. Et alors, ce qui est très, très intéressant et qui peut intriguer, c'est qu'il est dit de ce livre que mange le prophète, qu'il est doux comme du miel au palais, mais amer dans les entrailles, l'estomac, les intestins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certains qui ont supposé que ça voulait dire que le prophète était bien content d'annoncer un message de malheur, de condamnation, de destruction, de ruine à ses compatriotes. Qu'il était dur de cœur, agressif, qu'il en avait contre son entourage. Et donc ce message amer, il était tout content, il trouvait, lui, une douceur de miel. Tant il était agressif. Il y a un savant catholique qui était chanoine de Notre-Dame, qui est d'ailleurs mort accidentellement, qui a dit ça. Mais je crois que c'est une méprise complète. Excusez-moi, je m'aperçois que peut-être j'ai un peu trafiqué ce que... Oui, non. Excusez-moi, je viens de vous expliquer les choses comme je ne devais pas le faire. C'est pas entièrement faux, hein, mais je vais m'attraper. l'amertume aux entrailles n'est pas mentionnée dans le texte d'Ézéchiel. Donc, le texte d'Ézéchiel dit, c'est un message amer, un message plein de plaintes, de gémissements, de destruction. Et puis, il est dit, il sera à ta bouche d'une douceur de miel. Et c'est ça ce qui fait dire à ce commentateur catholique, j'appelais Steinmann, ce que je viens de rapporter. Et alors je dis, c'est une méprise complète. Et la reprise que nous avons dans l'Apocalypse de ce symbolisme, parce que l'Apocalypse, c'est ça ce qui m'a fait m'égarer un petit peu, l'Apocalypse reprend au chapitre 11 ce même symbolisme du livre, donc chapitre 10, Jean, comme Ézéchiel, doit recevoir un petit livre qui représente le message de Dieu, et au verset 9, il lui est dit, il te remplira l'estomac, les entrailles, d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et c'est ce qui se produit. Alors pour comprendre, il faut savoir que les entrailles, dans la Bible représente les émotions, les sentiments qu'on éprouve. Et cela, à partir de l'expérience que nous connaissons bien, que quand nous sommes violemment émus, ça nous prend là, nous avons des expressions parfois un peu trop brutales, mais pour le dire aussi, hein, ça me prend aux tripes. Nous aussi, nous savons que les émotions se manifestent là. Alors, le texte de l'Apocalypse nous enseigne comment comprendre le symbolisme de ce qui s'est passé pour Ézéchiel. Si on considère la qualité de parole de Dieu que la bouche est là pour apprécier, puisque c'est la bouche qui va porter le message, alors c'est du miel, parce que c'est la parole de Dieu. Le miel est un symbole fréquemment employé pour la parole de Dieu. On l'a au psaume 19, par exemple. Ta loi, ton instruction, plus douce que le miel qui coule des rayons. Si on considère donc la qualité de parole de Dieu, appréciée par l'organe du discernement, c'est du miel, c'est la parole de Dieu. Mais si on considère les émotions, les sentiments que produisent les choses annoncées, alors là, c'est autre chose. C'est amer, ça secoue. Voilà ce que nous précise l'Apocalypse. Il ne faut pas confondre et il ne faut pas attribuer donc au jugement de la bouche, qui reconnaît la parole de Dieu, de la dureté sentimentale. Il ne faut pas du tout dire ça d'Ézéchiel. En fait, on voit bien par la suite qu'il a lui-même beaucoup souffert en association avec ses contemporains. Deuxième élément donc très intéressant dans la vocation d'Ézéchiel, un troisième peut être mentionné, c'est le retentissement que tout cela produit dans son corps. Il nous est dit qu'après avoir eu cette vocation et cette vision extraordinaire, il a été là comme hébété pendant 7 jours. Il a marché là, il ne savait plus où il en était, tant il était marqué par cette révélation. Ça aussi, ça correspond, me semble-t-il, au tempérament qui était le sien, que Dieu lui avait donné et que Dieu a utilisé. Et alors là, j'en viens à un autre élément qui n'est plus strictement de la vocation, mais qui se rattache quand même en lui. Dans le cours de son ministère, la suite du livre nous montre que le prophète Ézéchiel a été contraint de se taire pendant certaines périodes. Plus d'un mot. Mutité. Le fait d'être muet. Mutité. Nous voyons qu'à partir de la fin, je crois, du chapitre 24, il a cessé de parler. Et Dieu lui avait dit qu'il ne pourrait recommencer à parler seulement quand arriverait le rescapé de Jérusalem qui viendrait porter aux exilés la triste nouvelle de la ruine de la ville. Ça se situe donc en 587. Le prophète Ézéchiel, comme le prophète Jérémie à Jérusalem, disait « ça va très mal finir ». Les châtiments qui ont été retardés si longtemps, maintenant, il n'est plus possible de les éviter. Les Babyloniens vont prendre Jérusalem, vont tout détruire, vont détruire le temple. Le prophète Ézéchiel l'avait annoncé. Et puis Dieu lui dit, maintenant, tu ne peux plus parler. Tu te tais complètement. Mais je t'ouvrirai la bouche à nouveau, tu parleras de nouveau. Au moment où arrivera le pauvre rescapé de cette ruine de Jérusalem, qui viendra dire à Babylone ce qu'Ézéchiel avait annoncé est arrivé. Et c'est ce qui s'est produit. Nous avons un peu plus loin donc l'annonce qu'Ézéchiel a recouvré la parole juste avant qu'arrive le jour même, juste avant qu'arrive ce rescapé porteur de la triste nouvelle. Cela nous est rapporté au chapitre 33, verset 22. Et il est bien possible que ce n'ait pas été la seule période pendant laquelle le prophète n'ait pas pu parler, car au chapitre 3, au début de son ministère, Dieu l'avertit. « Fils d'homme, verset, chapitre 3, verset 25, on viendra te mettre des cordes pour te ligoter, de sorte que tu ne pourras plus sortir au milieu de tes compatriotes. Je collerai ta langue à ton palais et tu seras muet. Ainsi tu cesseras d'intercéder pour eux, car c'est un peuple rebelle. Mais quand je te parlerai, je t'ouvrirai la bouche. Alors tu diras, voilà ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je collerai ta langue à ton palais. Dieu se sert de périodes de mutité comme d'un signe ponctuant en quelque sorte, te tais, puis c'est tout. C'est possible de le comprendre comme ça. Mais je trouve que le langage employé suggère autre chose. Il n'est pas dit « je t'interdirai de parler », il est dit « je collerai ta langue à ton palais » comme un fait physique, puis « je t'ouvrirai la bouche ». Et puis c'est lié à cette étrange formule « on te lira avec des cordes, on te ligotera avec des cordes ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Surtout qu'on ne le voit pas raconter après. Puis ce « on », il y a dans l'original hébreu, il y a juste un verbe au pluriel, donc ça se traduit tout à fait normalement par « on », il n'y a pas de sujet indiqué. Alors il y a une idée qui me tente beaucoup. Elle n'est pas prouvée, mais une idée qui me tente beaucoup. C'est l'idée que le prophète Ézéchiel a souffert de périodes de paralysie, qu'il a été affecté par des accès de paralysie au cours de sa vie. C'est ce que représenteraient ses cordes pour le ligoter. Il était comme ligoté. Les liens de la paralysie l'empêchaient de bouger, de sortir. Et puis, il ne pouvait plus parler. Sa langue était collée à son palais. Ça me paraît plausible, surtout que ça va assez bien avec son tempérament extrême, ultra nerveux, que j'ai décrit tout à l'heure. Bon, c'est une idée lancée par un certain Klosterman, et moi je pense qu'elle est tentante. Surtout que ça permet aussi d'expliquer ce qu'on a au début du chapitre 4, où on voit qu'il doit être couché, rester couché, devant une brique sur laquelle est dessinée Jérusalem, et doit rester 390 jours sur le côté, couché. Et puis 40 jours sur l'autre côté. Alors, s'il a dû faire ça, comme ça, mais on peut imaginer que c'est sa paralysie, qui est aussi utilisé là comme un signe. Alors si c'est vrai, hein, je ne vous impose pas cette interprétation, elle n'est pas parfaitement sûre, mais si c'est vrai, là de nouveau j'y vois une leçon spirituelle extrêmement intéressante. Elle nous montre comment Dieu se sert même de handicaps, même de choses qui pour l'individu sont extrêmement pénibles à supporter, à titre de signe. Ils sont porteurs de sens dans la vie de la personne. Ça fait partie du plan de Dieu. Il rachète en quelque sorte le moins que représente en soi cette difficulté, la paralysie là, pour en faire un plus. Il s'en sert. Moi, il me semble que c'est un message qui correspond aux perspectives bibliques globalement. Dieu est le seul qui soit capable d'ainsi racheter les moins pour en faire des plus. Se servir de ce que Teilhard de Chardin, c'est pas une référence pour nous peut-être, mais c'est intéressant quand même, appelait les passivités de diminution. Nous sommes passifs, nous devons supporter des diminutions. Là, la diminution de sa possibilité d'agir et de parler. Mais ces passivités de diminution, Dieu s'en sert. Il les intègre dans son plan. Teilhard dit que c'est comme les deux mains de Dieu. Dieu nous modèle par le positif, mais aussi par le négatif. Des deux manières, augmentation, diminution, il nous modèle. Ce sont les deux mains de Dieu, mystérieusement. Et il est capable de faire sortir du plus, même de ces moins dont nous voudrions nous être débarrassés, bien sûr. Alors, il me semble que c'est une leçon spirituelle intéressante. Alors, cette vie d'Ézéchiel vous ayant été décrite, il me reste à signaler quels sont des accents majeurs de sa prédication, avant que nous abordions plutôt de grands passages du livre d'Ézéchiel la fois prochaine. Je vous signale quels sont les accents les plus frappants, mais très brièvement parce que nous aurons l'occasion d'y revenir. Premier accent, me semble-t-il, très important, celui que ce prophète, formé pour être prêtre, fait entendre. Il se soucie non pas tant de justice sociale, bien qu'il en parle aussi parfois, que de pureté. Que de cette pureté, de cette sainteté qui convienne en la présence de Dieu. Ça, c'est le souci du prêtre dans l'Ancien Testament. De l'homme du lieu dans lequel Dieu a choisi de manifester sa présence, d'être présent d'une manière particulière. Alors, Ézéchiel sans cesse dénonce les souillures, les infidélités dans le domaine du sacré. Et le thème de la présence divine est le grand thème chez lui. Cette présence divine que Dieu avait accordée au temple de Jérusalem, à cause des souillures du temple, il va l'en priver. Dieu est mobile. Il n'est pas rivé à ce temple. Il va quitter ce temple. Sa gloire, avec le char divin, va quitter le temple. Mais Dieu y reviendra aussi, dans son œuvre de restauration. C'est le mouvement de la gloire du temple qui structure en quelque sorte tout le mouvement du livre d'Ézéchiel. Dans les derniers chapitres, on voit la gloire revenir dans un temple nouveau et parfaitement saint. Et le dernier mot du livre, qui indique le nom de la ville de Dieu, c'est « L'Éternel est là ». Même, il n'y a même pas de verbe en hébreu. « L'Éternel, là ». Ah, c'est le premier grand thème sur lequel revient le prophète. Deuxième thème très important, la responsabilité individuelle. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ne dites pas, c'est à cause de mes parents, de mes grands-parents. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et toute une accumulation de bonnes œuvres, etc., ça ne sert à rien si on se détourne de la voie de Dieu. Voilà ce que disent le chapitre 18, le chapitre 33. Et le prophète lui-même souligne sa responsabilité. Il est comme une sentinelle. Et s'il ne dit pas ce qu'il doit dire, le sang de ceux qui vont se perdre sera sur ses mains. Je te redemanderai leur sang. Thème de la responsabilité, qui est aussi un thème très très important. Et puis le thème d'un refrain qui revient, j'ai fait le compte dans une concordance, 62 fois, plus encore des formules assez proches. Quand tout cela se produira, etc., vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Ils sauront que je suis l'Éternel. Oui. C'est une manière de dire, les événements qui accomplissent les prophéties vérifient l'authenticité de mon messager, que c'est vraiment moi qui parle, mais sans doute ça veut dire encore en plus, ils sauront ce que veut dire mon nom. L'Éternel, c'est le Dieu vivant, le Dieu qui intervient, le Dieu qui se soucie des hommes. Alors quand ces choses se produiront, que les sceptiques dans le peuple d'Israël traitaient à la légère, en se moquant, quand ces choses se produiront, vous saurez ce que ça veut dire, que je suis l'Éternel. Ça, c'est encore un très grand thème dans le livre d'Ézéchiel. Alors, il y en aurait peut-être d'autres, mais voilà, je vous propose ces trois à mettre en valeur. Et pour orienter votre lecture, il serait très bon que vous lisiez pour le mois prochain le livre d'Ézéchiel et que vous ayez des questions pour aborder notre deuxième volet de l'étude du livre. Voilà, il reste quelques minutes pour des questions, si vous en avez, sur ce qui a été dit aujourd'hui. Oui, c'est tard.
J'ai dit dans le Nouveau Testament,
oui.
Il y a une ressemblance entre Ézéchiel et Jésus.
Alors la question posée est la suivante. Jésus, dans le Nouveau Testament, s'appelle Fils de l'homme. Y a-t-il un rapport, un lien entre cet usage du titre pour Jésus et ce qu'on voit dans le livre d'Ézéchiel, où la formule revient souvent, fils de l'homme. Je crois que oui. Ce n'est pas en général tellement commenté, tellement admis. Parce qu'il est clair que la première référence de l'usage du titre fils de l'homme par Jésus, c'est une référence au chapitre 7 de Daniel. Jésus a cité formellement le chapitre 7 de Daniel. Donc, quand il a employé la formule fils de l'homme, et qu'on a cherché une prophétie pour correspondre, on a été du côté de Daniel. Mais personnellement, je pense, comme il nous est suggéré par la question, qu'il y a aussi un lien moins fort, mais intéressant, avec le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, mon impression, c'est que le titre « Fils de l'homme » est lié à ce thème de la responsabilité que j'ai évoqué il y a un instant. L'homme est créé en image de Dieu, donc responsable. Celui qui est au sommet de ce trône mobile, il est comme un fils d'homme. Et la créature de poussière qui est le prophète, parce qu'il est en image de Dieu, n'est pas un simple animal. Ce fils d'homme est élevé en responsabilité. Voilà ce que je comprends, et je crois que Jésus a repris ce thème-là aussi. Il est pleinement l'image de Dieu. Et c'est lui qui remplit de manière pleinement responsable la vocation humaine, notre Seigneur Jésus. Donc il y a un lien, me semble-t-il. Et là, je ne résiste pas à la tentation, vous me tentez, frère, de signaler un détail lié à ce titre « Fils d'homme » au début du chapitre 2. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il me dit « Fils d'homme, tiens-toi debout, car je vais te parler. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout. Je vois dans cette station debout, justement l'image de cette responsabilité. Le prophète, il est complètement écrasé, vous voyez, il va être hébété pendant 7 jours, et il est comme prostré à terre. Mais Dieu ne veut pas seulement des adorateurs qui se prosternent. Il veut des hommes debout. Il veut des serviteurs qui se présentent fermement devant lui pour recevoir ses ordres de mission et accomplir dans la responsabilité la mission qu'il leur confie. Ça me paraît très intéressant. Et ce qui nous permet de tenir debout de façon responsable devant Dieu, c'est l'Esprit. L'Esprit me fit tenir debout. Moi, je trouve que c'est très beau, très fort. Une autre question éventuelle ? C'est juste l'heure, là, maintenant. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous pourrons clore tout à fait normalement. Alors, je vous encourage donc à préparer des questions pour la prochaine fois, parce que le livre d'Ézéchiel contient beaucoup de difficultés. Je ne pourrai en traiter dans l'exposé qu'un tout petit peu. Alors, s'il y en a une qui vous intéresse spécialement, signalez-la.